17h06, de retour en studio. Oui, c'est une émission spéciale. La prochaine heure est différente de notre 17 à 18h habituelle. On va diffuser en direct de la cérémonie en hommage aux victimes du 6 décembre 1989. Vous le savez, ce 6 décembre aujourd'hui marque les 30 ans de cette tragédie, de cet attentat antiféministe qui a marqué le Québec et qui continue de marquer le Québec. Donc, dans la prochaine heure, on va alterner entre cette cérémonie qui a lieu sur le Mont-Royal à Montréal et des commentaires en studio avec des voix que vous connaissez. Nos collaborateurs sont là. J'ai rapatrié Luc Ferrandez, Richard Terrien, Thérèse Parisien, Catherine Beauchamp pour commenter un peu autant dans les souvenirs qui vont puiser, dans les analyses qu'ils peuvent faire et des réactions à chaud à cette cérémonie qui est toujours spéciale. Hein? 20e anniversaire, 25e, 30e. J'ai encore dit anniversaire, j'haïs de dire ça, mais disons que c'est par manque d'un meilleur mot, mais à chaque jalon comme ça, là, en termes d'année, ben, c'est toujours un peu spécial. Donc, Luc, bonjour.
Bonjour.
Luc Ferrandez, 6 décembre 1989, tu étais où, tu faisais quoi?
J'habitais à Paris, j'étudiais là-bas. Puis ma mère m'a téléphoné pour me le dire, puis je refusais de le croire. Mmh. J'arrivais pas à le croire, c'était ma première réaction, puis elle était longue.
Et c'était avant Internet, c'était avant, etc.
Oui,
donc,
c'est ça.
Le seul lien que tu avais, c'était avec ta mère qui t'appelait pour te raconter.
Et ça faisait des années que j'étais à Paris, puis je racontais à tout le monde que Montréal est une ville douce, une ville calme, une ville sans criminels.
Thérèse Parisien?
Oh, moi, je travaillais pour des magazines, j'étais de retour à la maison. Et je me souviendrai toujours qu'il y avait le bulletin de 5 heures. Tu sais, il y a le bulletin tout le temps. Alors, les nouvelles, on les regardait où? À la télévision, à 18 heures, à 17h30. Et donc, je me branchais quand j'arrivais de travailler. Et j'arrivais de travailler souvent très tard. Et je me souviens que cette journée-là, j'étais arrivée à la maison plus tôt. Et j'ai ouvert le bulletin de nouvelles. Et je me souviens d'avoir entendu cette nouvelle-là en fin de nouvelle, comme un peu en fin du bulletin. Et j'ai vu...
Oui, parce que la fusillade commence, oui. Là, je veux te dire, autour de 17h quelques. Là. Donc, voilà. Pour les bulletins de 18h, c'est encore la confusion.
Ce dont je me souviens, il y avait confusion, premièrement. Mais il y avait confusion dans ma tête, parce que je me souviens de m'être levé. Je me souviens d'avoir regardé le bulletin de 22h debout, dans mon salon.
Debout.
Ça, je me souviens de ça, debout.
Pourquoi tu te souviens d'être debout?
Parce que je n'ai pas l'air de bouger. Parce que quand je vois les ambulances et quand j'entends les nouvelles, puis les nouvelles, là, entendons-nous, là, qu'à 5h, à 6h, je savais qu'il était arrivé de quoi. Parce qu'à un moment donné, Marie-Claude Lavallée demandait, y a-t-il des morts, combien, parce qu'on venait de savoir qu'il était arrivé un événement. Et Roger Laroche lui avait dit, c'est un événement d'une extraordinaire gravité. Et c'est tout ce qu'on savait. Et là, on a dit, on va revenir au prochain bulletin. Et là, on a dit, il paraît qu'il y aurait 3 morts et 3 blessés. Et là, c'est tout ce qu'on savait. Mais le soir, j'attendais le bulletin. Et là, entre-temps, il ne s'est pas passé grand-chose. Là. On en parlait tantôt avec Richard. Écoute, il y a eu des émissions de télévision régulières. On n'était pas à l'ère des réseaux de nouvelles. On n'était pas à Twitter. On avait... Écoute...
C'est une autre époque. C'est pas la préhistoire, là, mais 1989, en termes d'information, de circulation de l'information, c'est une autre époque complètement. Aujourd'hui, Thérèse, ça prendrait 5 minutes. On aurait des témoignages de première main des gens sur leurs médias sociaux.
Écoute, là, il y avait Alexandre Dumas et Ruth Loisel qui avaient été envoyés sur les lieux. Écoute, sérieusement, mais je me rappelle d'avoir été debout.
OK, on est en émission spéciale. Vous reconnaissez les voix de Luc Ferrandez, Richard Terrien, Catherine Beauchamp, Thérèse Parisien, et on s'en va tout de suite aux commémorations des 30 ans de l'attentat de Polytechnique.
Féminicide survenu le 6 décembre 1989 à la Polytechnique de Montréal. Merci d'être ici en si grand nombre ce soir. Je m'appelle Karine Vanasse et je vous accompagnerai tout au long de cette cérémonie. Tout d'abord, Son Excellence, la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, s'adressera à vous. Par la suite, Mme Catherine Bergeron, présidente du comité mémoire, vous souhaitera la bienvenue. Nous rendrons ensuite hommage aux 14 victimes de Polytechnique par l'illumination des faisceaux dans le ciel de Montréal. Nous serons également en direct avec des universités québécoises et canadiennes qui commémorent la tragédie de Polytechnique avec nous. Après un moment de recueillement, vous entendrez les voix d'un cœur qui se trouve derrière moi. Et en terminant, des fleurs seront déposées au pied de la mosaïque en hommage aux 14 victimes. Le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, le premier ministre du Québec, M. François Legault, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, feront une brève déclaration à la fin de cette cérémonie. 79 years ago, on July 31st, 1940, on this very same Belvedere, the virtuoso violinist Ethel Stark led the first female symphonic orchestra ever created in Canada. I sincerely believe that's a powerful symbol to honor women here tonight. C'est ici même, sur ce Belvédère, le 31 juillet 1940, que la violoniste virtuose Ethel Stark a mené le premier orchestre symphonique féminin jamais créé au Canada. C'est donc symbolique de rendre hommage aux femmes ici ce soir. Avant de céder la parole à notre prochaine invitée, j'aimerais mentionner un ouvrage sur Polytechnique publié aujourd'hui même, ce jour-là, parce qu'elles étaient des femmes, écrit par l'auteur et journaliste José Boileau. Ce livre rend hommage aux victimes en racontant leur histoire personnelle, en plus de dresser un portrait de l'histoire du féminisme au Québec. Des exemplaires sont en vente à l'intérieur et à l'extérieur du chalet. J'inviterai maintenant Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, à vous dire quelques mots. I would like to now invite Her Excellency, the Right Honorable Julie Payette, Governor General of Canada, to say a few words.
Bonsoir. Je suis ingénieure. Je suis une femme ingénieure. Et le 6 décembre 1989, j'étudiais le génie. Comme mes collègues Anne Saint-Arnaud, Annie Turcotte, Anne-Marie Lemay, Anne-Marie Edward, Barbara Daigneault, Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Maryse Laganière, Maryse Leclerc, Maude Aviernik, Michel Richard, Nathalie. Sonia Pelletier, qui étudiait le génie, Nathalie Croteau, et Barbara Klouchnik-Vidayevich, qui étudiait les soins infirmiers. J'étais à l'université comme elle, par choix, simplement. J'étais là pour, non pas changer les statistiques ou défier les normes, pas par idéologie ni par militantisme, pourtant je suis féministe. J'étais là parce que j'aimais la profession et que je voulais en faire une carrière. Because I am an engineer through and through. I chose to become an engineer. Like so many of my colleagues who studied today engineering. Like those of my colleagues that were wounded. Like my sisters who died at Polytechnique 30 years ago. Leur vie, si horriblement écourtée, et la vie des 14 autres blessés méritent, exigent que nous discutions franchement du contexte plus large dans lequel cette tragédie s'inscrit. Un meurtrier seul, armé d'un fusil d'assaut. Mais derrière ces actes se profile un tissu de préjugés, de sexisme qui enveloppe encore aujourd'hui notre culture. Et ces préjugés sont difficiles à changer. Nous devons de le faire, tous ensemble, hommes et femmes. À la violence verbale et écrite que nous voyons si souvent dans les médias, dans les réseaux sociaux, que l'on entend, on se doit de dire non, non. To the belittling, the dehumanizing, the name-calling that we observe so often, especially to any woman who raises her head above the crowd. We have to speak up and say no. Au respect des femmes, partout, autour de nous, dans nos familles, dans la société et au travail. Nous devons l'exiger. Et à la violence familiale, nous devons nous opposer pour que ces magnifiques jeunes femmes ne soient pas mortes en vain et que jamais cela ne se reproduise, plus jamais.
« chers membres des familles, distingués invités, mesdames et messieurs, nous font l'honneur de leur présence Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, Her Excellency the Right Honorable Julie Payette, Governor General of Canada, le très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, et Madame Sophie Grégoire, Right Honorable Justin Trudeau, Prime Minister of Canada, and Ms. Sophie Grégoire, l'honorable Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, et Madame Pauline Théberge, the Honorable Michel Doyon, Lieutenant Governor of Quebec, and Ms. Pauline Théberge, Monsieur François Legault, Premier ministre du Québec, et Madame Isabelle Bray, Monsieur François Legault, Premier of Quebec, and Ms. Isabelle Bray, Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, et son fils Émile, Ms. Valérie Plante, Mayor of Montreal, and her son Émile, Monsieur Philippe Tanguy, directeur général de Polytechnique Montréal, Mr. Philippe Tanguy, President Polytechnique Montréal, Madame Catherine Bergeron, présidente du comité mémoire, Ms. Catherine Bergeron, President of the Committee Mémoire. Bonsoir et bienvenue à tous à cette soirée commémorative du féminicide de Polytechnique. Je m'appelle Karine Vanasse et je suis particulièrement touchée d'être ici ce soir pour souligner la mémoire de 14 jeunes femmes victimes du féminicide survenu le 6 décembre 1989 à 17h10. Par un soir gris et enneigé, comme ce soir, 14 femmes sont mortes, tout simplement parce qu'elles étaient des femmes et qu'elles souhaitaient réaliser leurs rêves dans notre société. 14 vies envolées en seulement 19 minutes. 14 autres personnes ont également été blessées, en plus de bouleverser de nombreux témoins et d'ébranler toute une société. 30 ans plus tard, nous nous recueillons pour elles, afin de ne jamais oublier. 30 years later, we are together here, so they will never, never be forgotten. J'inviterai maintenant Madame Catherine Bergeron, présidente du comité mémoire et sœur d'une des victimes, à venir vous adresser la parole. I would like to invite Ms. Catherine Bergeron, president of the committee mémoire and sister of one of the victims, to say a few words.
Chers membres des familles, blessés, survivants, survivantes, distingués invités, vous tous, amis, citoyennes, citoyens, bonsoir. Ce soir, devant vous, avec vous, j'ai l'âme à la tendresse. Le 6 décembre 1989, nous avons vécu une très grande peine d'amour, la perte de 14 femmes extraordinaires. Il y a 30 ans, elles se sont levées au petit matin, confiantes en l'avenir, pas seulement le leur, mais aussi le nôtre. 30 years ago, these women's respective lives and destinies were shattered, which has left us with the obligation to reflect on this loss. It's been 30 years already. And it's still important to remember. La mémoire permet de refaire le chemin en sens inverse et de revenir au présent avec quelque chose de plus apaisé au cœur. Tonight, I'm reminded that uniting the spirit of solidarity and tenderness, we all turned a tragedy into a triumph of the human spirit. Je me souviens que les histoires de vie des 14 femmes ont façonné notre histoire. Nous ne sommes pas elles, mais nous sommes assurément faits d'elles. Je me souviens que nous n'accepterons plus jamais que des femmes meurent parce qu'elles sont des femmes. Society cannot just undo the outrage of unjust death, but we can transcend the pain and create a world that reflects our aspirations while it brings us together. Les 14 faisceaux qui s'allumeront nous disent où nous sommes et surtout où nous en sommes. These 14 beams of light let us know where we are, and above all, they help guide us to where we want to be. En cette 30e commémoration, nous devons nous promettre d'être les gardiennes et les gardiens vigilants de la place des femmes dans la société. We need to ensure that men and women, who are equally important part of our world, are open and aware allies and possess community tolerance for all. À ces 14 femmes qui ont été, à toutes celles et ceux qui seront, aux familles endeuillées, aux survivantes, aux survivants, aux étudiantes et aux étudiants qui étaient présents en 1989, aux intervenantes et aux intervenants qui les ont aidés, à nous, je souhaite toute la paix possible. I wish us a deep, serene peace. Les lumières qui s'élèveront une à une vous sont dédiées, mesdames. The lights that shine over Canada today are lit for you and in your names and memory. Du fond du cœur, permettez-nous de vous aimer toujours.
On est en direct du Belvédère du Mont-Royal où se déroule la cérémonie de commémoration des 30 ans du massacre de Polytechnique. Karine Vanasse, l'actrice Karine Vanasse, qui est la maîtresse de cérémonie, qui a rappelé, qui a nommé les choses, a parlé du féminicide de Polytechnique. Julie Payette, la gouverneure générale, qui a rappelé, c'était ses premiers mots, « Bonsoir, je suis ingénieure ». Et elle a rappelé qu'elle était étudiante elle-même en génie à cette époque-là, en 1989. Pas par militantisme, mais par amour de la profession. Tout le monde est là, Justin Trudeau, François Legault, Mme Payette, je l'ai dit. Il y a plein de gens. Les images sont magnifiques. On peut les voir à la télé. Vous pouvez écouter ici ces paroles de réconfort qui soulignent la vie de 14 femmes qui ont été tuées il y a exactement 30 ans. On va s'arrêter pour une petite pause. Il est 17h23. Les images, les mots qui nous parviennent du Belvédère du Mont-Royal sont absolument magnifiques. C'est une cérémonie très touchante qui souligne les 30 ans du massacre de Polytechnique, du féminicide de Polytechnique, comme l'a très justement souligné l'actrice Karine Vanasse, qui est la maîtresse de cérémonie ce soir sur le Mont-Royal. On a allumé là, il y a quelques secondes les 14 faisceaux lumineux qui symbolisent évidemment les 14 victimes du tueur fou. Luc, on en discutait pendant la pause. On regardait les images et ce que tu dis est très juste, Montréal sait faire.
Vraiment, à tous les niveaux. Tu as vu, là, il s'agit du comité mémoire qui a organisé l'événement, mais la présence des dignitaires, la présence de M. Trudeau, de Mme Payette, de M. Legault, de Mme Plante, la dignité de tous ces gens-là, la présence des familles, la qualité des discours, la qualité du bilinguisme, la qualité du site, du lieu. C'est quand même une commémoration. Tu sais, c'est pas ça le point aujourd'hui, là, mais c'est une commémoration absolument exceptionnelle.
Oui, oui. Bien d'accord. Les images avec le... Vous êtes sûrement déjà allé au Mont-Royal, là, si vous êtes venu à Montréal, et l'endroit mythique, c'est le Belvédère. Et là, tu as tous les dignitaires, les faisceaux qui s'allument avec les lumières du centre-ville. C'est très émouvant. Moi, j'en ai... Je te dis, j'avais la chair de poule.
Absolument.
Catherine.
Ben, je voulais revenir sur le discours de Julie Payette parce que, bon, elle évoquait qu'elle est aussi ingénieure. Et quand moi, je l'ai vécu, j'avais 14 ans. Et mon père est aussi ingénieur. Il était venu me chercher. J'étais pensionnaire à Rigaud et on annonçait une tempête de neige. Donc, les parents venaient nous chercher plus tôt. Et on était dans la voiture à la radio. Et je me souviens que nous, on l'a vécu comme ça à la radio. Et le fait d'avoir mon père ingénieur qui a toujours fait la promotion des femmes dans l'industrie qui cette année, est allée chercher ma fille avec des amis qui a amené une femme ingénieure de son bureau pour qu'elle leur explique la profession parce que lui, il trouve qu'il n'y a pas assez de femmes. Je me souviens qu'il avait été dévasté dans la voiture quand il entendait ça. Tu sais, ça touchait et sa profession et justement le fait que les femmes, il n'y en avait pas assez dans le milieu, puis il a toujours encouragé ça. Alors, pour moi, ça va rester vraiment marquant ce moment-là.
Oui, écoute... Ton père l'a pris personnel, j'imagine.
Oui, puis il en reparle encore, puis il reparle encore souvent de ça, du fait qu'il n'y a pas assez de femmes dans l'industrie, puis c'était vraiment une attaque terrible.
Richard, Catherine Bergeron, la présidente du comité mémoire, qui a commencé en citant Pauline Julien. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse.
Très belle parole. Moi, j'avais 17 ans à ce moment-là, on avait le même âge. Écoute... Je dirais que c'était la fin de l'innocence, hein? Une entrée plutôt brutale dans l'âge adulte. Et on en reparlera tantôt de la couverture télévisuelle.
On retourne tout de suite au Belvédère du Mont-Royal. Et là, c'est le chœur qui chante Alléluia, si je ne m'abuse.
«
17h34, ce que vous venez d'entendre, c'est le chœur qui est aux cérémonies de commémoration des 30 ans de Polytechnique. Et très symbolique, les chansons qu'on a choisies. D'abord, « Aimons-nous » de Yvon Deschamps et ensuite « Alléluia » de Leonard Cohen. Symbolique, bien sûr, parce que ce sont deux grands, grands Montréalais, des hommes de paix, d'amour, de fraternité. Des chansons archi-connues au Québec et dans le cas de Leonard Cohen, un peu partout dans le monde. C'est Thérèse, c'est pas un choix c'est pas un hasard.
Non, et aimons-nous quand même, là, dans un contexte comme celui-là.
Mon
peux-tu
Dieu.
Dire que ça rentre dans le corps?
Oui.
Solide. Je viens de l'entendre, là. Je l'ai entendu souvent, je l'ai entendu beaucoup. Mais là, vraiment, puis en plus, tu l'entends et tu penses à cet événement-là qui c'est jamais terminé. Tu sais, c'est un événement qu'on essaie de mettre un peu un terme, un baume, quelque chose autour de cet événement-là pour célébrer 30 ans. Excusez ma voix qui tremble, mais vraiment, je pense que c'est jamais terminé. C'est-à-dire que on fait ce qu'on fait présentement. Mais il y a comme une peur, il y a comme quelque chose qui est resté depuis ce moment-là.
Quand tu dis que c'est jamais terminé, ça a repris, Thérèse, 25 ans avant qu'on ait collectivement la conversation pour nommer les choses par leur nom.
Bien, ça a repris ça. Et pourtant, Heidi Redgen, là, qui avait été...
Qui était une étudiante à l'époque, qui s'était impliquée dans la lutte au contrôle des armes à feu.
Le surlendemain de l'événement, elle était allée au point... Je pense que c'est Madeleine Poulain qui l'avait interviewée. Et elle avait dit, là, il ne faut pas oublier une chose, il faut prendre position parce que ces 14 filles-là ont été assassinées pour une raison misogyne.
Et à l'époque?
À l'époque, là, personne n'avait... on avait toutes fait les morts autour de ça.
Oui. Richard?
Oui, moi, j'ai constaté ça parce qu'aujourd'hui, j'ai revisionné les bulletins spéciaux de cette journée-là. Tu sais, quand je parlais de la fin de l'innocence tantôt... Quand on demandait les réactions des gens, c'est comme si on avait vu en direct la fin de leur innocence parce que on connaissait pas ça. C'était jamais arrivé des choses comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'on aurait une réaction différente. Et on savait pas comment traiter ça non plus dans les médias. Moi, je me souviens, mon propre journal, le lendemain, a titré 15 morts. D'abord, il y avait une erreur, là. 15 morts et 13 blessés, tout au masculin. Il n'y avait rien de féminin là-dedans, là, tu comprends? C'est sûr, on peut dire que c'était sur le moment puis qu'on n'avait pas le temps de réfléchir, mais quand même, c'est quand on y pense. Là.
Luc?
Mais moi, je me rappelle aussi que la réaction face à la police, c'est-à-dire que pendant les semaines qui ont suivi, et les mois qui ont suivi, il y a eu énormément de critiques sur le fait que la police n'était pas entrée sur le lieu. Et la tuerie de Dawson, si elle a pu être évitée par la suite, c'est parce qu'il y a eu des leçons prises de Polytechnique. Aujourd'hui, si le même événement se reproduisait, on ne parlerait pas de la police, on parlerait de la santé mentale.
Mais en termes de police, l'approche pour Polytechnique, c'était les premiers agents qui arrivent sécurisent
le site
le périmètre. Et on attend que le SWAT arrive.
Et la leçon, comme une prise d'otage,
Jacques Chenot en a parlé souvent, la leçon pour la police de Montréal qui servait ailleurs, c'est les premiers qui arrivent rentrent et doivent faire sentir à l'assaillant qui est traqué, qui ne peut pas agir avec impunité. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Dawson aussi.
Je l'ai revu après dans plein d'événements aux États-Unis, ils n'ont pas pris cette leçon-là. Eux, ils font encore le périmètre autour des édifices. Mais ce n'était pas ça le cas. Le cas, c'était... la santé mentale. Tout de suite, aller vers la solution. C'est pas un problème policier, c'est un problème d'agression.
Tu veux dire à l'époque?
Oui. À l'époque, on n'a pas parlé beaucoup de la santé mentale de comme étant la cause principale de cet attentat-là.
Merci, Luc. On revient avec cette émission spéciale des commémorations du 30e de Polytechnique. Il est 17h38. 17h43, les images qui nous proviennent du Belvédère du Mont-Royal à Montréal pour les commémorations du 30e anniversaire de l'attentat de Polytechnique sont absolument magnifiques. Les images sont magnifiques. Les mots sont magnifiques. Je vous invite à écouter les mots prononcés par la maîtresse de cérémonie, Karine Vanasse.
J'aimerais que l'on promette à ces 14 femmes que dorénavant, collectivement et individuellement, nous ferons de notre mieux pour nommer les violences avec les mots qui les définissent réellement. I want us to promise these 14 women that we will be brave and use the right words when it comes to describing acts of violence against women. Car oui, nous avons le devoir de nous souvenir, mais nous avons aussi le devoir de reconnaître et de nommer. Pour ma part, c'est parce que j'avais peur du mot féministe que j'ai voulu mettre l'avant le film Polytechnique, il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, ce mot, je le trouve beau, fort, rassembleur, important et nécessaire. Oui, pour les femmes, mais aussi pour les hommes et pour les enfants. Je veux ce soir profiter de cette occasion pour mettre en lumière le travail de ceux et celles qui se battent et se mobilisent pour rappeler le droit qu'ont les femmes et tous les êtres humains d'exister pleinement et de se sentir en sécurité. Alors pour vous, éternelles jeunes femmes, pour sceller cet engagement que nous faisons collectivement, de ne jamais vous oublier, I invite you all to raise your arms to the sky. Levons symboliquement les mains vers le ciel pour nous unir au faisceau en guise de solidarité, d'espoir en un monde sans violence, d'unification et de puissance visible du souvenir. À vous tous, merci, 30 ans plus tard, d'être ici pour elle. Merci à tous.
C'était Karine Vanasse, la maîtresse de cérémonie là, de ces commémorations du 30e anniversaire de l'attentat de Polytechnique. Des mots très sentis. Je pense que... j'écoutais Karine Vanasse, j'avais le frisson, Catherine.
Oui, effectivement. Puis c'était la meilleure personne pour animer, pour être maîtresse de cérémonie aujourd'hui, parce qu'elle a d'ailleurs vécu le drame par procuration, ayant joué dans le film, mais aussi elle l'a produit.
Et ça a été un chemin de croix là, de produire ça. Ça n'a pas été très bien reçu.
Non,
il
y avait eu toute
l'idée,
une controverse parce qu'on se demandait si c'était trop tôt, si on était pour le traiter avec complaisance. Et je pense que Denis Villeneuve, au bout de la ligne, a fait du bon travail, ne serait-ce qu'en le traitant en noir et blanc. Et ça a permis d'accélérer les choses, de nommer les choses. Tu parlais... Bon, ça ne fait que 5 ans qu'on nomme les choses. Je pense que là, ça a comme provoqué qu'il fallait avoir une discussion justement sur le massacre de Polytechnique. Puis je suis très contente finalement au bout de la ligne que ce film ait été fait.
Oui, mais elle est une maîtresse de cérémonie absolument magistrale. Richard?
Un film que j'ai revu récemment et je vous conseille d'aller le revoir. C'est un film d'une grande sobriété, d'une grande beauté malgré la terreur et l'horreur aussi de ce qui se passe. Et oui, c'est vrai que sa décision de faire un film là-dessus a été très controversée. Hein. Les familles avaient peur de ce
d'accord.
que ça allait donner. Ouais, c'est ça.
Mais ça fait œuvre utile, je
Absolument.
Pense, quand on fait le bilan des courses. Il est 17h47. 17h51, l'attentat féminicide de Polytechnique, ça fait 30 ans aujourd'hui. Ça vient de finir, il y avait des commémorations aujourd'hui. Une cérémonie sur le belvédère du Mont-Royal. C'était magnifique. Les images étaient magnifiques, les mots étaient magnifiques. Et parlant de mots, on va écouter ceux du premier ministre du Québec, François Legault.
Il faut se dire les vraies choses. Là. Il y a 30 ans, 14 femmes sont faites voler leur avenir parce qu'elles étaient des femmes. Il y a 30 ans, 14 femmes qui avaient de l'ambition, qui étaient brillantes, sont faites tuer parce qu'il y avait de l'ambition puis qu'elles étaient brillantes. Il y a 30 ans, le Québec a été attaqué dans une de ses valeurs les plus fondamentales, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ce soir, tous ensemble, Justin, Valérie, moi, mais tous les Québécois, on a un devoir de mémoire, on a un devoir d'être unis pour jamais baisser la garde, pour défendre cette valeur fondamentale, l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci, bonne soirée.
C'était le premier ministre du Québec dans un discours bien senti. On sentait que François Legault était très touché d'être là et de parler de ces 30 ans de Polytechnique, de parler de ces 30 vies qui ont été volées. Luc, vraiment, ça a été une cérémonie formidable. Qu'est-ce que tu en retiens?
Mais j'en retiens que l'émotion est encore palpable 30 ans plus tard. J'en retiens qu'à chaque année, particulièrement pour le 30e, il y a beaucoup, beaucoup d'incidences, mais qu'à chaque année, les Montréalais, les Québécois, les Montréalaises, les Québécoises, ne veulent pas oublier, ne veulent pas balayer cette histoire-là, veulent en parler aussi douloureux que ça soit. Et ça, c'est par là que passe la solution. C'est le fait qu'on ressent tous de l'émotion, on ressent tous et toutes de l'émotion qui fait que la partie ne sera pas abandonnée. Il va y avoir une suite. Ça va continuer. Et il y en a une suite. Il y en a toujours une suite. Ça évolue, ça avance. Je pense que c'est sain. Je pense que ça témoigne d'une société qui est saine, qui est ouverte, transparente, puis lucide. Alors, je suis enchanté de cette cérémonie.
Catherine, la prochaine étape, c'est quoi? En termes de conversation sociale, là.
Ben, je pense qu'on est déjà dans ce genre de conversation-là. Je pense que de donner de l'accessibilité aux femmes dans tous les domaines, d'avoir une meilleure protection. Moi, j'ai encore peur de ce genre d'événement-là. Tu sais, il y en a eu d'autres après des massacres et des tueries dans des écoles ou dans des endroits publics. Donc, je pense qu'il y a un devoir dans les deux sens du terme, autant sur la façon dont on traite les femmes dans la vie, la façon dont elles sont perçues collectivement, mais aussi sur le plan de la sécurité. T'sais. Je pense que des fois, on se pose peut-être pas assez de questions.
Thérèse.
Je pense qu'il va falloir revisiter nos rapports entre les hommes et les femmes avec les données d'aujourd'hui. C'est-à-dire que chacun veut sa part des choses et c'est tout à fait normal. Et je pense qu'il faut juste repenser le dialogue, repenser un dialogue où les choses sont claires, où les choses sont claires et sont acceptées et sont plus, tu sais, que ce soit plus normal, plus lousse un peu, parce que là, des fois il y a des contraintes, puis des fois il y a toutes sortes de mouvements dont on entend parler qui sont, c'est pas très sain, puis je me dis, écoute là, il y a un dialogue à avoir, puis il y a des choses à se dire, on a des choses à se dire encore.
Richard, 20 secondes.
Oui, moi je pense qu'il y a une chose dont on ne devrait pas être très fier depuis toutes ces années-là, c'est qu'on n'est pas avancé plus dans le contrôle des armes à feu. Et je pense qu'on devrait agir.
Richard, tu as Nathalie Provost qui est une des victimes, mais qui a dénoncé comme une mascarade de ce qui se passe au fédéral. Tu as tellement raison de conclure là-dessus.
Merci vous quatre. Merci d'être sortis de vos rôles habituels dans l'émission au Québec maintenant pour commenter pendant cette commémoration très, très touchante des 30 ans de l'attentat féminicide de Polytechnique. Attentat féminicide, ce sont les mots de Karine Vanas et ce sont les bons mots. Il est 17h56. 18h02, Philippe Bonneville de Cogeco Nouvelles était aux commémorations de Polytechnique au sommet du Mont-Royal. Salut Philippe.
Salut Patrick.
Le moment le plus émouvant en personne, c'était quoi Philippe?
C'est absolument le moment où on a allumé ces 14 faisceaux un à un en nommant chacune des victimes. Ça fait quelques années qu'on fait ça ici au sommet du Mont-Royal, mais c'est toujours quand même aussi poignant de voir cette lumière monter vers le ciel. On parle de faisceaux lumineux, Patrick, qui ont 2 kilomètres de hauteur dans le ciel. Donc, on va les voir, ces faisceaux-là, tout au long de la soirée, parce qu'on va pas les éteindre là, immédiatement à la suite de cette cérémonie-là. Toute la soirée, les gens dans la grande région de Montréal vont pouvoir voir ces lumières-là. Vraiment, ça, c'est un moment assez spécial de vivre ça ici. Vous dire aussi que, on n'a pas vu ça parce que la cérémonie était terminée, mais ce qu'on a vu, c'est vraiment Justin Trudeau et François Legault, à la suite de la fin de la commémoration, qui sont restés de longues minutes et qui sont allés jaser, discuter, serrer la main des proches, des victimes qui étaient assis tout près de la scène. Donc ça a passé un peu inaperçu, là, mais vraiment, il y a eu un beau lien, un beau moment d'échange entre les premiers ministres et ces gens-là. Et aussi, un moment assez important quand même, c'est lorsqu'il y a Justin Trudeau, lorsqu'il a pris la parole pendant une minute ou deux, il y a eu un grand moment de réaction, beaucoup de réactions, beaucoup de cris, beaucoup d'applaudissements dans la foule quand il a parlé d'un meilleur contrôle des armes à feu, quelque chose qu'il voulait mettre de l'avant au cours des prochains mois au gouvernement fédéral. Il y a eu une belle réaction dans la foule. Les gens ont vraiment applaudi chaleureusement cette déclaration du premier ministre canadien.
À la télé, Philippe, les images étaient magnifiques et même sans la télé, avec la simple bande audio, là, les discours, c'était extrêmement touchant. Écoute, quand le cœur a entonné, deux chansons là extrêmement touchantes et extrêmement symboliques, parce que Aimons-nous de Yvon Deschamps et Alléluia de Leonard Cohen, deux chansons de grands Montréalais. Comment les gens ont réagi là-bas?
chanson de paix, hein, chanson de rassemblement. Les gens ont écouté. Il n'y avait aucune parole dans la foule. Les gens étaient extrêmement attentifs. Parlant de la foule, on disait vouloir peut-être accueillir ici près de 2000 personnes. Évidemment, il fait assez froid. Je vous dirais qu'il y avait au moins 700 à 800 personnes quand même qui se sont déplacées ici. Beaucoup de gens provenant des différentes associations étudiantes de l'École polytechnique. J'étais sur place plus tôt ce matin et il y avait plusieurs groupes qui s'organisaient justement pour être présents ici. Beaucoup, beaucoup de femmes, beaucoup de familles qui étaient présentes également. Et on le voit là, c'est vraiment un décor exceptionnel. Là. La vue sur le centre-ville de Montréal, les faisceaux lumineux qui illuminent le ciel présentement de la métropole, le Mont-Royal où il y a eu tous ces rassemblements au fil des décennies. Bref, c'est un moment très spécial qu'on vient de vivre ici, du côté de Montréal. Et tout un hommage à ces 14 femmes qui ont été tuées, il faut le rappeler, parce qu'elles étaient des femmes.
Oui, et Karine Vanasse, la maîtresse de cérémonie, Philippe, je pense que tu vas être d'accord avec moi, qui a fait un travail formidable. Des mots qui portaient beaucoup de dignité. Elle aussi nommait les choses. Hein? Elle a commencé en disant que ce qui s'est passé à Polytechnique il y a 30 ans, c'était un féminicide. Je pense que cette femme-là a le tour avec les mots.
Oui, et elle n'a pas hésité à dire à un certain moment que pendant un certain temps dans sa vie, elle avait presque peur du mot féministe. Et c'est vrai que parfois, il y avait certaines connotations, disons, un peu plus négatives au terme féministe. Mmh. Mais là, maintenant, on le sent. Là. Être féministe, il n'y a rien de négatif là-dedans. Qu'on soit des hommes, qu'on soit des femmes, qu'on soit jeunes, qu'on soit plus âgés, être féministe, c'est de défendre les femmes. Et il y a également Justin Trudeau qui l'a mentionné en anglais. Il a dit, on veut que toutes nos filles, nos enfants, nos filles que l'on élève, on le veut qu'elles puissent faire ce qu'elles veulent dans leur vie, qu'elles le fassent sans jamais avoir peur. Et on veut aussi que tous nos garçons, que ces frères-là, les frères de ces filles-là, deviennent des alliés dans la société et non pas des gens qui pensent que les femmes vont venir prendre leur place.
Merci beaucoup, Philippe Bonneville.
Merci, bonne fête soirée à vous.
On est de retour en studio. Finalement, j'ai décidé de garder une partie du panel. Luc avait des obligations familiales, mais Richard Therrien, Thérèse Parisien et Catherine Beauchamp sont là. On va continuer à jaser un peu des 30 ans de Polytechnique. Thérèse et Catherine, mes amis de filles me racontent des fois, tu sais, ou des blondes, d'anciennes blondes, c'est quoi avoir peur quand on est une fille? Moi, je marche à Montréal, jamais peur. C'est arrivé deux fois, je pense, là, puis je pense que j'avais raison, là. Mais quand on est une femme et qu'on marche dans cette ville-là ou dans une autre ville, il y a toujours cette obligation d'être sur ses gardes. Et je pense que les gars ne peuvent pas comprendre ça.
C'est difficile à comprendre pour un gars, probablement. Puis c'est difficile à comprendre, par exemple, une peur comme celle-là qui était un peu incontrôlable. Écoute, j'ai peur de pas grand-chose. Je vis dans le bois, j'ai pas peur des loups, pas peur des ours, j'ai pas peur de grand chose. Il y a une chose qui me fait encore peur, c'est cette haine incontrôlée de quelqu'un qui peut en vouloir à une femme. Ça me fait peur parce que je comprends pas, parce que c'est quelque chose pour moi qui est inexplicable. Donc oui, ça va m'arriver, ça m'est arrivé d'avoir peur en ville. Et d'avoir peur nulle part ailleurs et de pas grand-chose. Je suis pas une peureuse. Mais quand je te disais tantôt que ces choses-là, c'est jamais fini, ben c'est ce que je voulais dire un peu, c'est que cette peur-là, elle persiste à certains moments parce que tu as connu, tu sais qu'est-ce qui peut arriver. C'est-à-dire tu as eu des amis, on a toutes des amis de filles, là. T'en conviendras, on a toutes des amis de filles.
Aussi.
Voilà. Et on a des amis de filles, on a des filles, et on a des amis de filles à qui, je te dirais, il est arrivé des choses. Puis à un moment donné, ben ça reste dans ta mémoire. Puis ça reste dans ta mémoire quand tu marches dans la rue. Ça reste dans ta mémoire quand tu rencontres des gens qui sont pas sympathiques avec toi. Et quand tu reçois des courriels ou quand tu reçois des mots sur Twitter ou des affaires épouvantablement violentes, ben là, écoute, c'est difficile de faire comme si.
Moi, je suis pas mal plus peureuse que Thérèse. Je suis une personne qui est assez méfiante. Oui, peut-être avoir peur dans la rue, mais surtout peur des mauvaises intentions des autres. Puis en étant devenue mère, j'ai comme transmis ça un peu à ma fille. Tu sais, je me suis hier, je discutais avec ma fille qui s'en allait rejoindre des amis. Puis, tu sais, je suis toujours texte en arrivant, et puis dans les parties, puis les gars et tout ça. Là, on parlait du rapport homme-femme, tu sais, qui parfois peut être un peu fragile à l'adolescence. Comment tu vas être perçu par les gars de ta communauté, de ta classe? Puis je trouve que il y a énormément de chemin à faire sur une espèce de violence verbale qui existe encore, soit sur les médias sociaux, soit envers des personnalités publiques, mais aussi envers les jeunes. T'sais, ils sont très innocents, ces jeunes-là, qui sont au secondaire, au primaire. Puis, ils peuvent se retrouver à être victimes d'actes comme celui-là, comme Polytechnique. T'sais, je pensais qu'à ça, moi, quand je regardais les événements, je me disais, c'était des personnes innocentes qui n'avaient rien demandé. Et elles ont été victimes de la mauvaise intention de quelqu'un qui était malsain,
qui avait
lui.
Pas peur, certainement pas peur. T'es dans un cours, t'es avec des gens, t'es avec une soixantaine de personnes, t'es dans une classe, t'es dans une école, là où t'as des candidats ingénieurs en train de présenter leur programme. Tu penses pas à ça, là. T'as pas cette peur-là, là. Puis moi, il y a quelque chose qui m'a fasciné dans le documentaire de Judith
Plamondon.
Merci. C'est vraiment une des filles qui dit à un moment donné, tu sais, elle raconte, c'est Nathalie justement, Nathalie Provost, qui dit à un moment donné, moi quand le tueur s'est présenté et qu'il a dit, les garçons vous sortez et les filles vous à l'arrière, elle dit, j'ai eu le réflexe, mon premier réflexe, ma première pensée, c'était de dire, ah, on va être protégé de quelque chose. Parce qu'elle dit, j'ai toute mon enfance,
les femmes
et les enfants d'abord.
Elle vivait dans la naïveté, exactement, qu'on protège les femmes et les enfants.
Et ça m'a marqué, parce que je me suis dit, elle a eu une pensée comme celle-là. Et j'aurais sans doute eu une pensée comme celle-là.
Mais je voulais revenir sur ce que Richard a dit pour faire un lien avec le contrôle des armes à feu et celui de la peur. Moi, je pense régulièrement à ça. Pour avoir été, ne serait-ce que dans des grands événements ou à Cannes, où je me souviens de m'avoir clairement fait un plan de si arrivait un tireur ou quelqu'un dans un événement de masse comme celui-là, qu'est-ce que je fais? Puis c'est pas normal d'avoir ça en tête, que surtout en allant à l'école. C'est vraiment pas normal.
Et ça, c'est très contemporain, parce que comme je disais tantôt, quand j'ai vu les témoignages de l'époque, là, ça n'existait pas dans la tête des gens, ça. Et c'est apparu depuis ce temps-là. Là. La fin de l'innocence, là, elle est là aussi.
Ouais.
Puis les gars, soyons conscients, effectivement, que les femmes sont encore victimes de violences verbales aussi, comme
incroyable,
tu dis, sur les réseaux sociaux, beaucoup plus que nous.
Je pense que les gars, tu sais, moi, je crois pas au discours que tous les gars, parce que, écoute, je pense qu'il y a beaucoup de gars, d'hommes qui se sont braqués en 89 parce qu'il y avait une partie d'un certain discours qui disait « il y a un Marc Lépine qui sommeille en chacun des hommes ». Je trouve que c'est un peu fort de café.
Il s'est dit beaucoup
c'est
de choses.
Oui, mais regarde, on était dans la douleur de l'événement. Parfait. Ouais. Là, on a 30 ans de recul. Je pense que les discussions sont plus sereines, disons. Sauf que je pense que les gars devraient parler avec les femmes de leur entourage. Moi, quand c'est manifesté, avant MeToo, il y a eu le mouvement « agression non dénoncée ». J'avais fait une chronique pour expliquer, parce qu'il y a bien des gars qui étaient surpris de ça, du nombre de femmes qui avaient subi tout le spectre des agressions sexuelles, que ce soit des touchés non désirés à des viols dans le fond d'une ruelle. Moi, j'étais étonné qu'il y ait tant de gens qui soient étonnés. Je veux dire, parlez aux femmes autour de vous. Moi, à peu près toutes les femmes que je connais ont subi quelque chose. Quelque chose, là, ça peut être... Mettez votre doigt là, sur le spectre de l'agression sexuelle. Toutes les femmes ont subi quelque chose. Très chanceuses, celles qui ne l'ont pas vécu. Puis, après avoir parlé, j'ai une fille en tête là, qui m'avait dit, moi, quand je marche dans la ville, là, j'ai un plan mental. Où je peux rentrer pour me réfugier? Où est-ce qu'il y a un café ouvert? Bon, mais je vais prendre la route, je vais prendre la rue où il y a un café qui est ouvert à 24 heures plutôt que la rue qui va plus vite vers chez moi, mais qui est déserte. Moi, comme gars, je fais jamais ces calculs-là.
De placer ses clés entre ses jointures ou un truc comme ça. T'sais.
Je pense qu'une partie de la discussion vient du fait que les gars, on n'est pas habitués à avoir peur comme ça.
C'est-à-dire que c'est pas un réflexe et vous êtes pas... Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont senties, parce que des femmes autour d'elles ont vécu des choses, se sont senties un peu comme des proies à certains moments. C'est-à-dire, t'as l'impression... Alors, c'est... Mais effectivement, c'est pas des choses que les gens racontent, qu'on raconte. On a tous vécu des choses, puis il m'est arrivé, moi, avec des amis de filles autour d'un verre de vin, de raconter des choses, puis qu'à un moment donné, une qui raconte de quoi, puis on fait « Hein? Tu nous as jamais dit ça? » Puis là, on est sur les fesses, comprends-tu? On est ses amis. Puis là, tout à coup, ben les affaires sortent. Il y a quelqu'un qui dit, ben moi aussi, j'ai vécu ça. Puis là, écoute, tu tombes des nues. Tu dis, attends, on est des amis. Comment ça se fait que tu n'as pas raconté ça?
Parce que ça se raconte difficilement.
Parce que, qu'est-ce que vous auriez dit que j'étais sorti? Oh, il était 11 heures le soir. Puis, tu sais, il y avait, hey, on est tes amis. Mais non, non, non. Alors, c'est encore difficile. Il y a encore des choses difficiles. Et quand je te parlais tantôt de dialogue, je pense qu'un dialogue ouvert, de plus en plus ouvert, et pas juste entre les femmes, et pas juste entre les hommes, entre les deux. C'est un dialogue ouvert pour dire, ben regarde, moi, ça se peut que je me sente comme ça pour telle raison. Le dire, sortir.
On a un devoir collectif aussi à faire, parce que je repense encore au documentaire, le papa nous, qui parlait à ces jeunes filles. Oui. Il faut en parler. T'sais, moi, j'en ai parlé cette semaine avec ma fille Lily, parce que ma fille Lily, ils l'ont pas fait à l'école. Il faut qu'on transmette cette histoire-là aux plus jeunes qui poussent en arrière. Il faut qu'on soit capable de leur dire « voici ce qui s'est passé » et ça peut se reproduire.
Et les hommes qui se sentaient coupables le 6 décembre 89 et qui se sentent encore coupables tant d'années après, ça, quelque part, il faut que ces hommes-là parlent aussi. Là, parce qu'il n'y a personne, il y a un coupable. On sait son nom.
Merci. Merci vous toi. Merci Richard.
Merci
Thérèse. Merci Catherine d'avoir été là pendant cette... portion d'émission spéciale sur les 30 ans de Polytechnique. Merci. On s'arrête pour une petite pause. Il est 18h15.